Henri Rorda, dit Balthazar, apprendre ou à laisser, le programme de lecture du professeur d'optimisme, 1919. Partie 1, attendre. J'ai rencontré hier beaucoup de personnes qui n'avaient rien d'autre à faire qu'à attendre. Assise sur un banc du jardin anglais, une maman surveillait son petit garçon et sa petite fille, qui faisaient des saletés avec de l'eau et du sable. Elle attendait que ses enfants grandissent. Ils grandissaient avec une extrême lenteur. 10 minutes plus tard, j'ai passé devant le grec qui vend des tapis d'Orient. Adossé contre l'un des montants de sa porte, il attendait le client possible. 20 mètres plus loin, Maurice était arrêté devant la vitrine d'une modiste. « J'attends ma femme, m'expliqua-t-il. Elle choisit un chapeau. » Je lui ai dit « Courage !» et je suis allée causer avec Ernest, qui faisait la navette en attendant le tram. Puis je suis sortie de la ville. Sur la route d'une blancheur aveuglante, j'ai dépassé un attelage fatigué, qui, avec beaucoup d'efforts, faisait avancer lentement un tombereau trop lourd. Le charretier marchait dans la poussière, à côté de ses bêtes qu'il exhortait par des grognements périodiques. Heureusement pour lui, pensais-je, cet homme est habitué à attendre. Ses chevaux, qui ont de la mémoire, s'arrêteront d'eux-mêmes devant l'auberge de la Croix fédérale. Mais ce ne sera que dans 1h30. Un instant, je m'apitoyais sur son sort. Que pourrait-on donner à ce malheureux pour remplir le vide de ses journées? Je n'osais pas lui conseiller d'admirer le paysage, ni de se livrer à des méditations philosophiques. Non, il valait mieux que sa pensée restât endormie. Qui ne plaindrait-on pas si l'on devait plaindre tous ceux qui sont condamnés à attendre? Chaque jour, enfermés dans la salle qu'ils connaissent trop bien, des écoliers, des employés et des ouvriers sans nombre attendent pendant des heures le moment où ils pourront s'en aller. On attend une lettre, on attend sa bonne amie, on attend de l'argent, on attend le bonheur. Et le soir, quand on est fatigué, on attend avec impatience la minute ineffable où l'on s'étendra dans son lit. On attend la mort quand on ne peut plus rien attendre de la vie. L'homme invente des moyens de locomotion toujours plus rapides pour posséder plus tôt les choses qu'il désire. Mais dans ces journées, les minutes d'attente seront toujours les plus nombreuses. Nos nerfs ont besoin de repos. Et dans l'histoire de notre cœur, les événements doivent être suffisamment espacés. Il y a des êtres capables d'attendre 20 ans la réalisation de leur rêve unique. D'autres calment leur impatience en lui promettant 1 ou 2 fêtes annuelles. Et beaucoup de sages n'attendent rien de plus que leur petit plaisir quotidien. Mais tous ont besoin de patience. L'école a donc bien compris son rôle d'éducatrice, puisqu'elle habitue les enfants à supporter les heures vides, qui, à peu de choses près, composeront leur existence. La terre produit des ormes pour les personnes qui, en été, veulent attendre à l'ombre. Mais elle n'en produit pas assez. Aussi, les hommes ont-ils dû construire des salles d'attente. On en trouve chez les médecins, chez les dentistes, chez les consuls et dans toutes les gares. Tous heureux. L'autre jour, dans la rue, n'étant pas pressée, j'ai regardé l'humanité. Mademoiselle C montait l'avenue. Comme elle est distinguée! Il y a sans doute dans la ville quelques dames qui, par leur élégance discrète, pourraient rivaliser avec elle. Mais la manière dont elle tient son ombrelle est incomparable. Toute son éducation se résume dans ce simple geste qui lui permet d'éviter le plus grand nombre possible de chocs et de frôlements. Si la vertu avait un parasol, elle le tiendrait comme cela. Et Mademoiselle C laisse apparaître sur son visage un peu de la légitime satisfaction que lui procure ce sentiment d'être avec évidence une personne très comme il faut. Derrière elle venait un ouvrier plombier. Il était laid et mal bâti, dans des vêtements dont la couleur primitive avait disparu, sous la noble crasse du travail. En humectant les deux pointes de sa moustache, avec un peu de salive peut-être, il en avait fait deux aiguilles effilées, bien droites et rigoureusement horizontales. Et à la manière dont il regarda une servante qui revenait du marché, je compris qu'il comptait dans la vie sur le pouvoir de ses pointes assassines. Plus loin, je rencontrai un gentleman qui ne se laisserait pas marcher sur le pied. C'était du moins ce que sa mine devait tout de suite apprendre aux imprudents. Ayant les sourcils naturellement froncés, il avait sans doute reconnu un jour, devant la glace, qu'une expression intimidante lui seyait particulièrement bien. Son attitude ne changea rien à mes projets, car je n'avais aucune intention agressive. J'étais donc tout disposé à plaindre le monsieur ridiculement obèse qui s'approchait. Mais la distance ayant diminué, je reconnus mon erreur. Obligé par son ventre énorme de marcher la tête en arrière, il avait l'air d'un personnage conscient de son importance et heureux d'occuper une grande place dans le monde. Une jeune femme comportait une luxueuse automobile sourit à deux amis arrêtés sur le trottoir, et son sourire lent à s'effacer put encore servir à entretenir les espérances du baron S, qui, à l'âge de 60 ans, continue à vouloir faire des conquêtes. Sur l'autre trottoir, j'aperçus Madeleine, qui sourit constamment, parce qu'un jour quelqu'un a eu le malheur de lui dire qu'elle a un joli sourire. Ils sont tous heureux, me disais-je. Moi-même, j'étais heureux d'être celui qui observe les autres. Une fois de plus, j'admirais la noble nature qui entretient ingénieusement chez tous les êtres le goût de la vie. Elle a donné à Jeanne une fossette que ses camarades lui envient, et à Ernest une chevelure épaisse où l'on aime à plonger la main. Des individus qui ne savent ni chanter, ni danser, ni pérorer, parviennent quelquefois à étonner la galerie par la maîtrise avec laquelle ils commandent les mouvements de leur cuir chevelu. Les plus déshérités des hommes se réchauffent le cœur en songeant que leur cause se confond avec celle de la justice. Et pour que nous puissions accorder de l'importance à nos petits talents et à nos petites vertus, chacun de nous trouve en lui-même un admirateur plus ou moins discret, mais incontestablement sincère. La fin des guerres. Il est bien difficile à notre époque de ne jamais parler de la guerre. Qu'on me permette donc exceptionnellement d'en dire deux mots. Ou plutôt, ce sera moins fatigant pour moi, je vais reproduire ci-dessous la lettre que vient de m'envoyer M. Van Tock, professeur de bon sens à l'Université de Rotterdam. Cher M. Balthazar, comme à tout le monde, la guerre m'a suggéré une idée. Soyez assez bon pour la répandre dans le public européen. Voici. Un grand progrès serait réalisé si, après la conclusion de la paix, toutes les nations obligent leurs parlements respectifs à voter la loi suivante. Le service militaire n'est obligatoire que pour les citoyens âgés de 45 ans au moins. Ces citoyens-là auront seuls le droit, en cas de guerre, de porter des armes. Pour défendre mon idée, je me place sur le quintuple terrain du bon sens, du sentiment, de la morale, de l'intérêt général et de la psychologie. Premièrement, que nous dit notre bon sens ? J'entends le mien formuler cette proposition évidente. Il est plus naturel de mourir dans la seconde partie de sa vie que dans la première. Je n'insiste pas, car un axiome se passe de démonstration. Deuxièmement, ne sommes-nous pas tous profondément émus en songeant à ces millions de jeunes gens qui se sont bravement fait tuer avant d'avoir pu jouir de la vie? Beaucoup d'entre eux étaient des enfants qui n'avaient pas encore osé embrasser leur bonne amie, et ils ont eu le courage de se jeter dans les bras de l'affreuse mort. Et quelle responsabilité ces enfants, qui n'étaient pas même des électeurs, pouvaient-ils avoir dans les fautes commises par les diplomates et les hommes d'État de leur pays? Sans aucun doute, l'idée d'envoyer à la guerre des hommes déjà affaiblis par l'âge paraît au premier abord intolérable. Mais vous comprenez bien que ma loi, si elle est votée, aura pour conséquence immédiate l'humanisation de la guerre. On avancera à petite journée. Moins vigoureux, les soldats seront aussi moins exposés. D'ailleurs, des congressistes réunis à La Haye, comprenant qu'il s'agit d'eux-mêmes, imagineront sûrement des moyens ingénieux pour atténuer l'horreur de la tuerie. Vous me direz que jamais les fils ne consentiront au sacrifice volontaire des pères. Les pères ne doivent-ils pas consentir aujourd'hui au sacrifice de leurs fils? Pour faire taire leurs scrupules, les jeunes gens pourront se dire « Notre tour viendra ». Troisièmement, et puis, si l'on veut bien suivre mon conseil, quelle sera dans un conflit la nation victorieuse? Ce sera celle où il y aura le plus de vieillards sains et vigoureux, celle où l'homme restera vert le plus longtemps. Dans chaque guerre, l'état victorieux sera celui où les citoyens feront preuve de civisme en menant une existence conforme aux règles de la morale et de l'hygiène, en résistant aux tentations du vice. Et ainsi, enfin, la vertu sera récompensée. Quatrièmement, autre avantage. Pendant que les aînés défendront la patrie, le travail continuera à l'arrière, dans les champs et dans les fabriques. Il n'y aura pas de chômage, car les bras ne manqueront pas. Et, pour remplacer ceux qui mourront au champ d'honneur, les jeunes travailleront au repeuplement du pays. Cinquièmement. Cher monsieur Balthazar, les excellents arguments que je viens de vous donner ne sont que du petit fardeau à côté de celui que j'ai gardé pour la fin. Ma loi rendrait tout simplement la guerre impossible. Écoutez-moi bien. À de rares exceptions près, les hommes âgés de plus de 45 ans sont des réalistes, des hommes qui ne se paient pas de mots, des hommes qu'on ne fait plus marcher. Chez eux, la généreuse insouciance de la 20e année a fait place à la clairvoyance. Vous les connaissez. B ne tient qu'à sa quotidienne partie de cartes. T serait malade s'il devait être privé de son vermouth matinal ou de ses trois bocs vespéraux. C, qui a vécu 25 ans dans le monde de l'argent, connaît la vraie valeur de la vie. F ne s'intéresse qu'à son eczéma. Et G, le poète épique, qui a si souvent glorifié le mot, s'évanouirait si on le mettait en présence de la chose. C'est incontestable. Des diplomates quinquagénaires qui sauraient que leur peau, c'est un des articles essentiels de ma loi, sera la première peau offerte à l'ennemi, trouveraient sans peine une formule d'entente empêchant le conflit d'éclater. Adieu, Balthazar. Van Tock. Adieu, Van Tock. Parmi les 1000 objections qu'on pourrait vous faire, je n'en formulerai qu'une. On ne pourrait pas compter en cas de guerre sur la parfaite loyauté de tous les gouvernements. Je connais un premier ministre, que je ne veux pas nommer, qui composerait des régiments entiers avec de faux vieillards, des vieillards postiches, scandaleusement vigoureux. Non, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à pleurer. Un monstre. Ernest Pache, celui qui fut au collège mon meilleur ami et qui rata son baccalauréat en même temps que moi, est venu me voir dimanche matin après un quart de siècle de mutuel oubli. Je m'écriai : Comment ? C'est toi ? Tu l'as dit. Permets-moi de supprimer les effusions réglementaires car quelqu'un m'attend devant ta porte, dans un taxi. Voici ce qui m'amène. On m'a raconté que tu donnes des consultations morales. Est-ce vrai ? C'est vrai. Le client m'explique les causes de son malaise intime et je trouve les paroles subtiles et le remède qui ramèneront bientôt le calme dans son esprit. C'est 10 francs la demi-heure. J'obtiens la guérison totale ou partielle dans le 94% des cas. Excellent, dit Pache, guéris-moi. Montre-moi ton âme. Mon ancien camarade eut un mouvement de pudeur, comme si je lui avais proposé quelque chose d'inconvenant. C'est que elle n'est pas très propre. Pache, pour le médecin des âmes, comme pour celui des corps, les mauvaises odeurs n'existent pas. Il n'y a qu'odeurs caractéristiques, symptomatiques. Pache se décida. Voici, dit-il. Je commence à croire que je ne suis pas fait comme tout le monde. Je ne trouve pas en moi, au moment où je devrais les éprouver, les sentiments qui font la noblesse de l'âme humaine. J'ai étudié les livres de nombreux moralistes. Ils sont tous d'accord dans l'énumération des caractères qui distinguent l'homme de la brute. Eh bien, je crains que quelques-uns de ces caractères ne me manquent. Et puisque la nature produit des veaux à deux têtes, des femmes à trois seins et des enfants qui marchent à quatre pattes, je me demande si au point de vue moral, je suis peut-être un monstre. Je m'explique. Mon égoïsme exagéré m'inquiète. Moi, qui m'attendris si facilement en lisant de beaux vers, je supporte avec une insensibilité absolue le malheur de mes semblables. L'autre jour, en marchant derrière le cercueil d'une tante bien-aimée, je me disais, en m'essuyant le front, « Quelle chaleur !» C'était l'expression exacte et complète de ce que j'éprouvais. Il devrait y avoir, soit dit en passant, des chapeaux spéciaux pour enterrement d'été. Le fait est là, l'émotion ne se produit pas en moi au moment où elle devrait se produire, comme si mon mécanisme intérieur était faussé. Une fois, en songeant à un mort pour lequel, normalement, j'aurais dû éprouver beaucoup d'amour et de la vénération, je compris que je n'éprouverais aucune joie à le revoir. Son retour m'obligerait à reprendre des habitudes anciennes dont je m'étais débarrassée. Et puis, il y aurait à redéplacer des meubles dans mon appartement. ma sécheresse de cœur me fit horreur. Et tiens, quand les journaux nous annoncent quelques grands cataclysmes qui vient de faire des centaines de victimes en Chine ou dans la principauté de Monaco, j'entends mon affreux moi murmurer « Je m'en... » Le bruit d'un tram m'empêcha d'entendre la fin de la phrase de mon triste client. En dépit de mon silence glacial, il ajouta encore. Lorsque dans la rue, je rattrape une pauvre femme, mal vêtue, qui pousse péniblement une charrette trop lourde. Je prends l'allure de quelqu'un qui va sûrement manquer le train s'il ne se dépêche pas. D'une manière générale, j'aime mieux que les accidents se produisent quand je ne suis pas là. Enfin, dernier exemple. Cet hiver, j'avais une provision suffisante de pommes de terre. Mes voisins du troisième n'avaient pas de pommes de terre. J'interrompis Pache brusquement et, renonçant à mes 10 francs, je lui dis « Va-t'en, tu me dégoûtes. » Le pédagogue facétieux. Henri Blagafroy est, depuis 15 ans, l'instituteur du charmant petit village de Théry. L'autre jour, il a dû comparaître devant le conseil municipal de cette localité pour répondre, si possible, à l'accusation extrêmement grave portée contre lui. Le président n'y alla pas par 4 chemins. « Monsieur, dit-il à l'instituteur, vous êtes un fou ou un empoisonneur public ?» Henri Blagafroy esquissa un geste vague. « Et je vais le prouver, » continua le magistrat indigné. « J'ai ouvert dernièrement, tout à fait par hasard, les cahiers d'école que mon gendre, Louis Borel, un de vos anciens élèves, a conservés. Ces cahiers sont très propres et font, au premier abord, une excellente impression. Mais, heureusement pour nos enfants, j'ai commencé à en lire un. Et, ma foi, j'ai dû poursuivre ma lecture jusqu'au bout. C'était affreux. Je comprends maintenant pourquoi vous nous aviez demandé l'autorisation d'enseigner sans employer aucun manuel. Voici d'abord votre résumé de grammaire. J'y trouve ceci. Les verbes se divisent en 2 grandes classes. Les verbes infinibuliformes et les verbes œcuméniques. C'est ainsi que vous nommez les verbes auxquels les honnêtes gens donnent les noms de transitifs ou d'intransitifs. Un membre du conseil municipal, qui entendait ces vocables baroques pour la première fois, se les fit répéter. Il y voyait un sens scatologique. Un de ses collègues le rassura. Le président reprit. Au lieu de dire « pronom relatif », vous dites « pronom cuspido ». Vous n'avez pas craint de parler à vos élèves des adverbes faramineux et des adverbes trémébons, dont il ne reste, ajoutez-vous prudemment, aucun exemple dans le français moderne. Enfin, vous appelez conchoïde ce que j'appelle hiatus, etc., etc. Car j'ai fait mes études à la ville, monsieur. Je m'y connais. Henri Blagafroy écoutait attentivement. Son visage était celui d'un homme qui n'a rien à se reprocher. Passons à la géographie. Vous avez jugé bon, monsieur, de débarrasser l'île de Java des panthères noires et des serpents qui l'infestent, et d'y faire fourmiller d'arrogantes girafes et des zèbres rapides. Vous dites qu'entre les îles Galapagos et les îles Marquises, les relations sont redevenues amicales depuis que les oiseaux n'y font plus leur guano. Quant aux nombres qui définissent les populations des grandes villes du globe, vous les avez évidemment tirés au sort. Vous avez également tiré au sort les noms des villes qui méritent une cathédrale célèbre, ou un commerce prospère, ou encore une importante exportation de raisins secs. Encore deux exemples. Sachez, monsieur, que Tristan d'Acunha est le nom d'une île et non pas celui du général turc qui bâtit les Russes à Pultava. Enfin, puisque vous avez tenu à donner à vos malheureux élèves quelques notions de chimie, vous auriez pu faire mieux que de mentionner l'yttrium, soluble dans le sirop de framboise, et le tungstène, qui ne se dissout que dans l'huile de foie de morue. Vous n'êtes pas fou, monsieur. Vous avez volontairement et systématiquement trompé les enfants qu'on vous avait confiés. Je le répète, vous êtes un empoisonneur public. L'instituteur articula avec une parfaite tranquillité : Je n'ai empoisonné personne. L'erreur est un poison pour l'esprit, monsieur. Blague à froid eut un sourire et dit « Pourrait-on me confronter avec l'une de mes victimes ?» Le président, comptant sur les accusations accablantes du témoin, avait prévenu son gendre, qui attendait dans la salle voisine. On le fit entrer. Sans attendre, l'instituteur lui dit « Louis Borel, m'accusez-vous de vous avoir trompé ?»
Moi ? Absolument pas.
Vous ai-je empoisonné l'esprit ?
Quelle plaisanterie !
Le président voulut intervenir, mais blague à froid réclama avec force. Que l'on donne la parole aux témoins pour qu'ils disent ce qu'ils pensent de mon enseignement. Louis Borel s'adressa à son ancien maître en ces termes. « Je n'ai pour vous que de la reconnaissance. Vous m'avez appris à bien calculer, à écrire proprement et correctement, à m'exprimer avec aisance. Constamment, vous nous avez répété qu'il faut faire avec soin tout ce qu'on fait. » Le président l'interrompit. « Eh bien, elle est raide celle-là. Et toutes ces erreurs folles qui remplissent tes cahiers, est-ce qu'elles ne t'ont jamais gêné, Louis ?
Non, je n'ai pas eu l'occasion d'en souffrir. »
L'instituteur intervint. Je vais tout vous expliquer, messieurs. Je n'ai enseigné à mes élèves que des erreurs indifférentes, inoffensives. Je ne les ai trompés que sur les choses qui n'existent plus pour celui qui est sorti de l'école. C'était une expérience que je tentais. Henri Blagafroy était très aimé dans le village. Il ne fut pas révoqué. On le pria seulement de bien vouloir, désormais, se conformer à la mode. Le colleur d'affiche. J'ai vu l'affiche. Prochainement, Éléonore Balti. La cantatrice unique va venir. Ah, entendre encore cette voix. J'ai attendu 15 jours et j'ai eu la soirée inoubliable. Maintenant, c'est fini. L'homme à la grande blouse est venu et, sur l'affiche qui annonçait l'événement, il en a collé une autre où l'on voit un domestique frotter une bottine avec joie parce qu'il a enfin trouvé le seul vrai cirage, le reluisant. Durant quelques semaines, des milliers de passants constateront sur ce visage expressif l'évidente satisfaction que procure l'emploi du cirage nouveau. De son geste, le colleur d'affiche a fait brusquement baisser l'éclat de la gloire d'Éléonore Balti. Désormais, le nom de la grande artiste n'arrêtera plus le regard des badauds. Seuls ceux qui l'ont entendue se souviendront toujours. Le nombre de ceux qui pourraient la nommer va diminuer. L'oubli commence. On annonce maintenant le fakir du Bengale. Le colleur d'affiche lui accorde 3 semaines de célébrité. Quelques impatients comptent les jours. Ils ont tort, car un matin, bientôt, ils se diront « C'était hier soir ». Sur la route du temps où nul ne peut s'arrêter, ils auront dépassé le point lumineux, et ce sera déjà le souvenir et l'inutile regret. Il y aura du vide dans leur cœur jusqu'à ce qu'un désir nouveau y grandisse. Le colleur d'affiche va les aider. De son geste irrévocable, il fait rentrer le fakir dans le néant. Et, coup sur coup, il nous promet un danseur russe, un tribun socialiste et une grande fête de charité. Car le colleur d'affiche est un homme juste. Il ne permet à personne d'accaparer longtemps la gloire. À chacun son tour. De temps en temps, il arrache du mur d'affichage des lambeaux de papier dans l'épaisseur desquels on devine superposés des noms qui eurent un jour du prestige. Ces lamentables comprimés de gloire sont emportés par le balayeur municipal. Le geste du colleur d'affiche est symbolique. Il nous fait songer à la course folle qu'est notre vie et à tous ces événements que nous avons attendus avec espoir et qui, les uns après les autres, sont tombés dans l'abîme du passé. Le poète nous a dit « Aimer ce que jamais on ne verra deux fois ». Oui, mais puissions-nous aimer aussi la beauté dont les couleurs d'affiche n'abrégeront pas la gloire. Heureux celui qui aperçoit au loin, sur la route de sa vie, la région claire qu'il ne dépassera jamais. Une nouvelle ligue. Le diable doit être de plus en plus embêté. À notre époque, toutes les formes du mal sont combattues par des ligues qu'ont fondées les hommes de bonne volonté. Il existe une ligue internationale contre les rats qui, paraît-il, font chaque année pour 500 millions de dégâts, environ. Il y a une puissante ligue anti-alcoolique. La ligue contre la licence des rues empêche aussi la propagation de la littérature immorale. On s'est ligué pour simplifier l'orthographe, pour protéger les missionnaires contre les cannibales, pour empêcher les jolies femmes de porter des jupes trop courtes et pour interdire aux jeunes gens de se promener nu-tête. Il y a des ligues contre tous les abus et l'on ne rencontrera bientôt plus d'hommes fumant trop, dépensant trop ou faisant trop d'enfants. Toutes les maladies, toutes les erreurs, et tous les vices sont combattus par les ligues modernes. Et tous les hommes d'aujourd'hui sont prêts à se liguer encore plus étroitement contre le mal que font les autres. Eh bien, je dis que le nombre des ligues existantes n'est pas encore assez grand. Il en manque une. Je fonde aujourd'hui la ligue de ceux qui ne marchent pas, la ligue de ceux qui s'engagent à n'entrer dans aucune autre ligue, la ligue de ceux qui demandent qu'on leur foute la paix. Ma ligue sera essentiellement bienveillante. Elle ne combattra jamais les autres, car il y a des ligues qui font de la bonne besogne. avec les cotisations annuelles que paient en maugréant des milliers d'indifférents. On construit des sanatoriums utiles. Liguez-vous, braves gens. Mais lorsque, agglomérés par centaines de millions, vous aurez réussi à constituer une masse humaine formidable, qui n'aura que de bons mouvements, ne croyez pas à la victoire complète de la vertu. Puisse-t-il y avoir toujours des individus, des égoïstes aimant la solitude? Jeanne d'Arc était seule quand elle a entendu ces voix. Beethoven ne s'est fait aider par personne pour composer ses symphonies. Les grands penseurs, les grands artistes et les saints qui ont versé dans l'âme humaine le trésor de leur âme unique étaient seuls au moment où ils ont pensé ou agi. Des ouvriers nombreux qui travaillent ensemble dans une fabrique font beaucoup plus d'ouvrages que s'ils travaillaient séparément. Mais quand des centaines d'hommes se réunissent pour penser, ils ne parviennent qu'à composer un parlement ou un congrès. Et lorsque, par centaines de mille, ils marchent en rang serré sous les ordres d'un seul chef, c'est toujours pour aller tuer. Je n'ai pas l'intention de faire ma Jeanne d'Arc, et ce n'est pas par orgueil que j'aime à m'isoler. Je prétends seulement qu'au lieu de se liguer contre les vices des autres et de combattre le mal extérieur, beaucoup de personnes feraient mieux de diminuer le mal qui est en elles. Vous trouvez, madame, que quelques-unes de vos jeunes contemporaines portent des robes trop courtes. Mais vous-même, n'avez-vous pas la langue trop longue? Je connais un ligueur qui, hier, n'a pas été gentil avec sa femme et qui l'a été un peu trop avec celle de Victor. Et toi, vieux raseur, qui donne sans cesse des leçons aux peuples et aux gouvernements. Ne pourrais-tu pas, puisque tu veux faire le bien, apprendre à te taire? Ah, quel changement se ferait dans le monde si nous devenions tous assez égoïstes pour nous intéresser davantage à nos propres défauts qu'à ceux de nos semblables? Ma ligue a sa raison d'être. Elle sera utile en rappelant aux hommes d'aujourd'hui le prix de la solitude et du silence. Il faut de temps en temps sortir de la foule pour contempler et essayer de comprendre. Dans les retraites tranquilles où ne parvient pas le bruit des clameurs et des fanfares, peut-être entendrons-nous monter du fond de notre âme une faible voix, de plus en plus distincte, qui animera un jour ceux qui attendent. Cher lecteur, je le vois, vous êtes convaincu et vous entrez dans ma ligue. Mais ne m'envoyez pas vos cotisations et surtout pas votre bulletin d'adhésion. Le vrai de l'amitié, c'est de sentir ensemble. Nous n'aurons ni comité, ni président, ni secrétaire. Nous n'aurons ni réunions périodiques, ni rapports annuels. Et nous ne ferons jamais de cortège. Poignée de main. Je viens de passer une heure exquise avec T, l'historien. Il m'a fait comprendre l'importance des phénomènes sociaux auxquels je n'avais pas songé. Et j'ai maintenant des sujets de méditation pour longtemps. Malgré cela, en songeant à T, je suis mécontent, comme si je me reprochais quelque chose. Quoi ? Voici, nous nous sommes mal quittés. Notre poignée de main a complètement raté. Ma main a eu du retard et il n'a pu serrer que les bouts de mes deux doigts les plus longs. Quant à mon pouce, désemparé, il a exercé une pression maladroite sur un os, étonné. Nous aurions dû recommencer.
Vous me direz que j'ai tort de me laisser troubler par des accidents tout à fait négligeables. Que voulez-vous ? Pour moi, toutes les poignées de main ne sont pas équivalentes. Chacune a sa signification propre. Et, en les analysant, on parviendrait à élaborer une science qui aurait bien autant de solidité que la graphologie. Au moment de la séparation, j'aurais voulu dire à T, sans parole, ma sympathie et ma joie. En vieillissant, nous devenons discrets et timides dans l'expression de nos sentiments. Et en quittant un ami, nous chargeons notre main de lui transmettre le message de notre cœur que nous n'osons pas appuyer contre le sien. Il nous est impossible d'aimer notre prochain autant que nous-mêmes. À l'ordinaire, nous n'avons les uns pour les autres que de l'indifférence. Mais notre sang est constamment à une température de 36 degrés centigrades environ. Et nous mettons peu de chaleur dans nos entretiens avec nos semblables. La fraternité superficielle qui à chaque instant rapproche les êtres est précieuse. Nous ne pourrions pas vivre très longtemps dans une atmosphère glaciale. Eh bien, quand j'ai causé cordialement pendant quelques minutes avec quelqu'un, je m'attends à ce que notre geste d'adieu exprime l'accord fugitif de nos pensées. Je juge sans bienveillance le docteur Z, dont la main défiante et à moitié fermée me rappelle qu'il est un homme avare. Mais j'évite avec autant de soin mon ancien camarade Oscar, qui s'est trop longtemps exercé dans l'art de casser des noix en les serrant dans la paume de sa dextre. J'ai connu un vieux paysan qui, chaque fois en me quittant, me posait dans la main quelque chose de comparable à un cataplasme tiède qui aurait 4 doigts et 1 pouce et qui avait l'air d'attendre que je lui dise « Vous pouvez la retirer ?» Et je me rappelle encore un méridional dont le shake-hand chaleureux signifiait clairement qu'il était prêt à se jeter au feu pour moi. Pourquoi ce complet sacrifice ? Je n'aurais jamais songé à le lui demander. Trop prudente ou trop ardente, timide, maladroite ou ridicule, les poignées de main révèlent un manque d'aisance ou de naturel dans nos relations avec les autres. C'est d'ailleurs aussi pour des raisons d'ordre géométrique que l'exact emboîtage que je rêve ne peut pas toujours se faire. Il y a heureusement des exceptions. Il m'arrive de rencontrer dans la rue mon vieil ami Georges. Nous sommes parfois pressés. Mais sans que nous nous arrêtions, il se fait entre nos mains fraternelles un contact si parfait et si intime que le courant s'établit instantanément entre nos cœurs. Et c'est une minute presque aussi bonne que celle où mon enfant, fatigué par la promenade que nous achevons, m'abandonne avec une confiance absolue les 4 doigts et le pouce de sa main gauche. De la gauche, car elle a besoin du pouce de sa main droite pour le sucer. Le nombre de nos amis. Cher monsieur, nous avons été très heureux de faire votre connaissance. Vous nous feriez un grand plaisir à mon mari et à moi en venant prendre le thé mardi après-midi à la métairie. Madame, je garde le meilleur souvenir de la conversation que j'ai eue avec vous et avec Monsieur Denis, et je vous remercie pour votre extrême amabilité. Mais je n'irai pas prendre le thé chez vous mardi prochain. Notre causerie d'hier me fait supposer que nos relations pourraient devenir amicales et être durables. Eh bien, c'est précisément pour cela que je ne dois pas trop m'exposer à vous revoir. J'ai trop d'amis. Comprenez-moi bien, madame. Je ne reproche pas à mes excellents amis d'occuper une trop grande place dans ma vie. Je regrette, au contraire,
et bien sincèrement, d'avoir si peu de temps à leur consacrer. Mon vieil ami John à Baltimore attend depuis plus d'un an la réponse à ses trois dernières lettres. Puisse-t-il croire qu'elle a été torpillée par quelque sous-marin allemand? J'ai bêtement laissé s'éteindre dans le cœur de ma vieille tante Émilie la précieuse affection qu'elle avait pour moi. Je n'allais jamais la voir. Il y a vraiment trop de choses dans notre existence. Le travail remplit la plus grande partie de notre journée et il n'est pas assez machinal pour nous laisser la liberté de l'esprit. Et souvent, après le travail, vient une grande fatigue. Quelquefois, pour 6 ou 7 semaines, l'emploi de chacun de mes dimanches est fixé d'avance. Que deviennent mes enfants? Je les revois quotidiennement aux heures des repas. Mais que se passe-t-il en eux? Le repas fini, je les embrasse et je m'en vais car un client m'attend. À moins que je ne me plonge dans la lecture de mon journal, toujours le même. Je ne veux pas faire comme ce père dont j'ai reçu les confidences et qui, uniquement occupé pendant 20 ans à gagner de l'argent pour ses filles, a fini par devenir pour elles un étranger. Le mois dernier, nous n'avons pas trouvé une seule soirée pour aller voir nos fidèles amis, Philippe et Jeanne, à qui nous aurions pourtant tant de choses à dire. Vous me comprenez sûrement, chère madame. En songeant à ceux qui m'aiment et que j'aime, j'ai des remords. Qu'est-ce qu'un ami auquel on n'a pas le temps de penser? Vous me direz que nos affections peuvent dormir longtemps puis se réveiller, c'est vrai. Mais il arrive aussi qu'elles meurent si l'on y prend garde. Les gens affairés que nous sommes finiront par perdre complètement le goût de l'intimité. L'autre dimanche, je me suis décidée à aller voir ma sœur. J'ai parlé avec elle de ce que disent les journaux. C'est-à-dire que notre conversation a été dans le genre de celle qu'un coiffeur peut avoir avec ses clients. Ma visite a été trop courte pour qu'elle me raconte son grand chagrin. Elle me l'a confié le lendemain, dans une lettre. Pour que les cœurs s'ouvrent, il faut du temps. Si nous n'étions pas pressés, nous aurions d'autres paroles pour ceux que nous aimons. Eh bien, puisque notre temps est limité, le nombre de nos affections doit l'être aussi. La ravissante Madame Clarette a montré à ma femme l'élégant calepin où elle a inscrit les noms des 44 personnes qui sont ses vrais amis. Elle a de la chance. Si l'un de ses amis venait à mourir, il lui en resterait 43. Et comme cela, elle ne ferait pas une perte très douloureuse. Elle a son jour, c'est le lundi. Ce jour-là, de 3h à 7h, elle les reçoit tous, en tas. Et tous ont droit au même thé, au même gâteau, au même accueil cordial et au même sourire. Moi, j'aime à déguster des amis un à un. Sans hâte, vous voyez bien, chère madame, que je ne vous mets pas dans le tas. On nous a recommandé, quand nous étions petits, d'aimer tous nos semblables. Quelques êtres d'élite y parviennent. Mais pour cela, ils emploient un truc excellent. Ils aiment l'humanité en bloc et ne s'intéressent pas aux individus. Je viendrai mardi, chère madame, et nous recoserons de tout cela. Votre très respectueux Balthazar. N'abusons pas de la règle de 3. Vous avez le bonheur, chère madame, cher monsieur, d'être à la montagne, au milieu de vos enfants que l'école vous a rendus. Comme eux, vous êtes en vacances et vous pouvez vous intéresser, enfin, sans hâte, aux manifestations de leurs talents naissants. Vous accordez naturellement une grande importance à leur éducation intellectuelle. Eh bien, la prochaine fois qu'il pleuvra, par exemple demain matin, appelez votre charmante petite Marianne et dites-lui que vous allez lui proposer deux problèmes d'arithmétique. Peut-être vous répondra-t-elle d'un ton maussade qu'elle aimerait mieux quelque chose de moins barbant, car elle connaît les finesses du français tel qu'on le parle. Mais insistez en disant qu'il s'agit de deux devinettes très faciles. Les voici. Premièrement, on a deux boules en plomb absolument sphériques. La hauteur de la grande est le double de celle de la petite. La grande pèse 12 kilos. Que pèse la petite? Deuxièmement, on a deux champs de forme carrée. La superficie du grand est égale au double de celle du petit. La barrière dont on a entouré complètement le petit a coûté 100 francs. Que coûterait une barrière de même qualité qui entourerait l'autre champ? Votre exquise petite Marianne, qui marche sans crainte sur ses 14 ans, vous fournira probablement de réponses fausses. Et vous en profiterez pour la mettre en garde contre l'abus de la règle de 3. Elle n'y peut rien, la pauvre. Comme nous, elle a eu l'esprit faussé par l'insistance du pédagogue. Rappelez-vous ces ouvriers qui faisaient 4 fois plus d'ouvrages lorsqu'ils étaient 4 fois plus nombreux. Et ce café qu'on payait 2 fois moins cher, à condition que l'on en demandât 2 fois moins. Et cette pauvre couturière qui aurait ourlé 6 fois plus de mouchoirs si elle avait travaillé 18 heures par jour, au lieu de travailler seulement 3 heures. Cela devenait un refrain obsédant. 3 fois plus, donc 3 fois plus. 5 fois moins, donc 5 fois moins. Et ce raisonnement mécanique nous apparaissait comme un procédé permettant de résoudre tous les problèmes imaginables. Le moment est venu de protester, madame. Dites à votre jeune Marianne qu'une poule âgée de 20 ans ne fait pas 10 fois plus d'œufs que sa petite sœur âgée de 2 ans. Et vous-même, ne croyez pas qu'on soit 2 fois plus heureuse dans une robe qui a coûté 200 francs qu'on ne le serait dans une autre robe qui coûterait seulement 100 francs. Vous possédez un demi-million, monsieur, et vous croyez que votre félicité aura doublé quand vous posséderez le million entier. Cela n'est pas sûr. Parce que vous avez 60 ans, vous ne considérez que comme une demi-sagesse la sagesse des jeunes hommes de 30 ans. Mais alors, que sera-ce quand vous aurez 120 ans? Et puis, est-il bien vrai qu'on témoigne 2 fois plus d'amour à sa femme en la rendant mère 14 fois qu'en se bornant à lui demander cet héritier? John pèse 2 fois ce que pèse Philippe. Si Philippe et John étaient des cochons, un John vaudrait 2 Philippe. Mais Philippe et John sont nos frères en Jésus-Christ. Et en dépit de la guerre, la loi ne nous permet pas encore de les considérer comme des comestibles. Je n'insiste pas davantage, car on m'a compris. C'est seulement à l'école que toutes les heures sont les mêmes et qu'un kilo de viande en vaut un autre. Il faut être pédagogue pour croire qu'on instruit 2 fois plus un enfant en lui donnant 8 leçons par jour qu'en lui en donnant 4. Dans le monde du vrai travail, la qualité importe souvent davantage que la quantité. Et puis, il y a des âmes incomparable. voici pour finir deux règles de trois, imaginées par des humoristes célèbres. À l'approche de l'exposition universelle de 1900, Alphonse Allais, voulant calculer le nombre des entrées, nombre que les statisticiens confirmeraient au moment de la fermeture, fit ce raisonnement. À l'exposition de 1889, il y eut 39 780 422 entrées. En l'an 1, il y en aurait eu évidemment 1889 fois moins. Soit, en l'an 1900, il y en aura 1900 fois plus. Par ce procédé, il obtint d'ailleurs un chiffre très voisin du chiffre exact. Vous voyez bien. Georges Courteline nous a parlé d'un curé qui, au moment de sortir de son église pour aller souper chez la riche châtelaine du voisinage, vit arriver une pécheresse dont le besoin le plus pressant était de se confesser. Il ne put la décider à remettre la chose au lendemain. La malheureuse avait trompé 5 fois son mari. Or, le curé venait d'infliger la récitation de 12 paters et 12 ave à l'une de ses ouailles qui avait commis 7 fois ce même péché. Les sourcils froncés et l'esprit tendu, il articula. X est à 12 comme 5 est à 7. X est à 12 comme 5 est à 7. Mais, très pressé et ne pouvant sortir de ce calcul difficile, le curé dit à la femme qui se repentait : vous tromperez encore 2 fois votre mari, puis vous direz 12 paters et 12 ave, et ça fera le compte.